Vous écoutez RTL.
Maison, jardin, cuisine, brocante, toujours avec la Dream Team, l'équipe de rêve, samedi et dimanche matin. Laetitia, Eglantine, Thierry, Sébastien, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Alors Laetitia, c'est par vous qu'on commence ce matin. Lave-vaisselle, lave-linge, aspirateur, vous nous faites tourner la tête ce matin.
Ah oui, mais je les vénère, moi, ces appareils. C'est grâce à eux que nous pourrons aller nous balader cet après-midi. Ces appareils électroménagers ont largement contribué à libérer les femmes de l'esclavage domestique. Le lave-vaisselle, d'ailleurs, a été inventé par des filles. D'abord par une américaine en 1886, Joséphine Cochrane, qui en avait ras-le-bol que ses bonnes ébrèchent les plats.
Ah, c'est pour ça qu'elle...
Et puis en 1912, par une Française, Madame Labrousse, qui a remporté le concours Lépine avec une sorte de cuve dans laquelle arrivait un jet d'eau.
Marrant,
ensuite, les garçons s'en sont mêlés pour apporter de l'électronique.
Comme quoi,
ça.
Nous sommes bien utiles.
Exactement.
Vous allez consacrer toute votre chronique au lave-vaisselle.
C'était un exemple pour dire que, d'une part, les femmes sont géniales.
C'est vrai.
Oui, bon, passons à autre chose.
Et d'autre part, pour faire un tour d'horizon des dernières innovations dans l'électroménager. Des innovations qui cherchent toujours à nous simplifier la vie, mais aussi et surtout à l'embellir.
Ça veut dire que c'est la déco qui va primer sur la technologie?
Non, quand même pas, mais c'est vrai que ça a son importance. Aujourd'hui, on tend d'une manière générale vers des appareils sans poignée, des bijoux technologiques connectés, mais avec finalement peu de boutons, simples d'utilisation. Ce sont souvent des écrans tactiles.
Il faut bien commencer par quelque chose, les réfrigérateurs.
Chez Ayer, un modèle double porte. Et dans chaque porte dérangement. C'est un modèle XL pour grande famille ou gros mangeurs.
Parfait pour moi.
Et chez Siemens, vous pouvez carrément espionner votre frigo tout au long de la journée.
Alors ça, je ne comprends pas l'intérêt.
En fait, il y a deux appareils photo qui sont à l'intérieur du réfrigérateur.
Et qui vous prennent en photo, non?
Et ils prennent ce qu'il y a à l'intérieur du réfrigérateur. Ils se déclenchent et prennent de nouvelles photos à chaque ouverture et fermeture de porte.
Ah, la photo nous est envoyée, par exemple, sur notre portable. Ah, je suis au bureau et je reçois la photo de mon frigo.
Voilà. Et c'est pas mis sur Facebook, tout le monde sait ce qu'il y a dans votre frigo, non?
Non, mais vous pouvez surveiller d'abord ce que les enfants ont piqué dans la journée.
Si on ouvre le frigo 15 fois par jour.
Et surtout, voilà, l'intérêt, c'est que vous êtes au bureau, vous regardez votre téléphone portable, vous voyez la photo de votre frigo, vous dites avant de rentrer, je vais acheter ça.
C'est voilà. Bien.
Chez Bosch, c'est un réfrigérateur qui obéit à vos envies de déco avec des portes qui se clipsent et se déclipsent très facilement. 19 couleurs de façade, vous avez du rose clair, du noir mat, du jaune tournesol, du bleu pétrole. C'est à changer selon vos envies et surtout sans outils. Hein. C'est très facile.
Génial.
Après les réfrigérateurs, les lave-vaisselle.
Chez Mille, il s'ouvre tout seul. On fait toc-toc sur la porte avec sa main et la porte s'ouvre automatiquement. C'est la technologie Knock 2 Open.
En quoi ça change vraiment la vie?
C'est à permettre de frimer devant les copines.
Oui, exactement. D'accord. Et puis si vous avez les mains pleines de vaisselle, vous donnez un petit coup de genou et
c'est pas bête.
Ça s'ouvre. Voilà. La marque propose aussi un four avec les premiers accessoires pyrolysables.
Non, ça veut dire
qu'il n'y a plus besoin de laver la grille ou la plaque de four. Ils peuvent rester dans le four pendant le nettoyage par pyrolyse. Et enfin, voici l'air des hottes discrètes. Elles sont cachées derrière la plaque de cuisson et sortent leur museau juste quand on a besoin d'elles. Oui. On ne les voit pas, elles sont escamotables. On appuie, hop, elles sortent à la verticale. Elles émergent du plan de travail.
C'est bien ça.
L'énorme avantage, c'est que du coup, on peut mettre un placard de plus à leur ancienne place.
Ah, c'est génial.
Ah, c'est pas bête.
Bon, on passe de la cuisine au jardin. Alors Thierry, vous allez nous parler d'une petite bestiole qui enquiquine les jardiniers, les amoureux de la nature en général, qui s'appelle la pyrale du buis.
Ça fait
des ravages. C'est quoi exactement?
Alors, c'est un papillon de nuit asiatique qui se propage à une vitesse folle en France depuis 2007. Un papillon dont les chenilles dévorent les buis, c'est un peu alien version jardin.
Moi j'avais des buis, ils sont tous morts comme ça. Est-ce qu'il y a un traitement, Thierry, forcément?
Je vais être très modeste dans mes propos, parce que plutôt que d'étaler ma science, je vais vous raconter toutes les bêtises que j'ai faites cette année quand la pyrale s'est enfin attaquée à mes propres buis.
Ah, bravo. Tout ce qu'il ne faut pas faire.
D'ailleurs, première sottise, je ne me suis pas méfié.
Oui.
La pyrale, dans le Morvan, je n'y croyais tout simplement pas.
Mm-hmm.
Alors, quand les premières chenilles sont nées bien cachées sous les feuilles en avril, je ne m'en suis même pas aperçu.
Donc, vous avez attendu de voir votre buis complètement rongé pour réaliser qu'elles étaient là, quoi.
Exactement. Des centaines de petites bestioles jaunes et noires, des espèces d'estomacs à pattes. Quand on les voit mâchouiller, on panique.
Alors, après la panique, Thierry, vous avez traité, forcément, quand vous les avez vus repérer.
C'est ce que j'aurais dû faire. Autant que j'avais le produit bio spécial chenille, un produit naturel, Eglantine, bacilles de Thuringe. Mais ce produit stop chenille ne peut se passer que le soir, quand le soleil baisse, et en plus quand il ne pleut pas.
Bah et alors?
J'étais invité à dîner ce soir.
Il faut choisir.
Donc je n'ai pas traité. Pendant toute la nuit, les chenilles s'en sont données à pleine mandibule.
Vous avez attendu donc le lendemain soir?
Eh bien non.
Alors
parce qu'il a plu. Et il a plu pendant trois jours.
Ah, le malheureux.
Alors, c'est bacille de turinage, non. Je vous l'ai dit, aucun effet quand il pleut. Ah, donc, mes buis ont été hachés, menus.
Oh là, vous avez quand même fini par pulvériser enfin un moment votre anti-chenille bio, là.
Le cinquième jour.
Mais c'était déjà trop tard.
Comme les apôtres. Mon traitement a été redoutablement efficace. Opération choc et stupeur sur les chenilles, mais trop tard. Presque toutes les feuilles sont rongées. Heureusement, les tiges sont encore vertes et donc mes buis repousseront.
Ah, ils sont sauvés.
Et les papillons vont revenir et pondre à nouveau.
Dès juin, juillet.
Ah,
et aussi à la fin juillet. Oh.
Bon, alors là, vous avez annulé tous vos dîners du mois de juillet. Précisément, qu'allez-vous faire?
Je dors avec le doigt sur la gâchette. La pyrale, je ne la laisserai pas revenir chez moi.
Ouais. Évidemment, comme d'habitude, vous nous mettez tout ça sur rtl.fr. Dans un instant, on va retrouver la suite de Maison, Jardin, Cuisine, Brocante. Tiens, on va vous parler d'une foire qui a un drôle de nom. Soumoulou. Et puis, on va parler du roi des légumes du jardin. Il est vert, il est petit, il est rond. Indice.
Indice.
La suite de Maison, Jardin, Cuisine, Brocante, avec vous Églantine, vous nous emmenez dans le sud-ouest de la France. Que se passe-t-il ce week-end là-bas?
Quelque chose de formidable. Je ne peux pas faire l'impasse sur l'une des plus grandes et des plus belles foires qui soit, qui en plus a le mérite d'être accessible à de nombreux passionnés de brocante grâce à sa situation géographique exceptionnelle, à condition bien sûr d'être dans le sud-ouest. Je veux parler de la foire biannuelle de Soumoulou.
C'est où exactement Soumoulou?
C'est une petite ville située au milieu du triangle Pau-Tarbes-Lourdes. Ouais. On est à moins de 2 heures de Bordeaux, à 1h30 de Toulouse, c'est plutôt idéal. Et d'ailleurs, c'est sans doute une des raisons qui explique le succès de cet événement, qui a donc lieu 2 fois par an, le premier week-end de mai et le premier week-end de décembre. Il s'agit bien d'une grande foire à la brocante et aux antiquités. Et je tiens...
C'est pas un vide-grenier, donc.
Non, voilà, moi je tiens à cette précision parce qu'on est en plein mois où on voit fleurir plein de brocantes qui tiennent plus souvent du vide-grenier que de la véritable brocante et qui annoncent partout brocante. Et là, je dis non. En tout cas, là, à Soumoulou, c'est une vraie brocante. Les objets, meubles, tapis, épicerie, culture sont tous de belle qualité. C'est une foire qui se veut exemplaire à tous les niveaux et qui a obtenu le label France-Europe Antiquité Qualité Authenticité. C'est un label accordé aux seules manifestations qui s'engagent à bannir le faux et la copie neuve.
Bah, donc, c'est du sérieux.
Bien. C'est hyper sérieux. Vous pouvez donc acheter en toute confiance à Soumoulou.
Donc, tous à Soumoulou. Alors, il y a des objets de la région, j'imagine, non?
Mais évidemment, on est dans la Nouvelle-Aquitaine. Ouais. D'ailleurs, pour cette édition, c'est vraiment le Béarn qui sera mis à l'honneur. On va retrouver donc, par exemple, des meubles classiques du 17e au 19e siècle avec les école de Morlas, d'Orthez, de Sally de Béarn, de Ney et j'en passe.
Et quand on n'est pas trop connaisseur, on n'est pas un peu
alors,
perdu.
Alors je me doute que ce sont des styles que vous ne connaissez pas forcément.
Voilà. Non, c'est pas trop, non.
Les professionnels qui sont là adorent faire partager leur passion. Ah, ils seront ravis de vous faire découvrir tous ces styles. Et ce sont des styles avec des caractéristiques décoratives très différentes d'une plaine ou d'une vallée à l'autre. Côté tableau, il y a plus de chances de tomber sur une toile d'Émile Gottschalk qu'ailleurs. Et puis vous allez pouvoir découvrir des tas d'artistes peintres locaux qui ne sont pas dénués de talent.
Alors Églantine, on peut dire que c'est donc une brocante de région.
Pas seulement, parce que figurez-vous que parmi les exposants, il y a quelques fidèles qui viennent d'Espagne, d'Italie et d'autres régions de France. Alors, je vous le dis, avec tant de stands à parcourir, la pause sera la bienvenue et elle risque fort de tourner autour des spécialités locales.
Dans le Béarn, oui, en général.
Dans le Béarn, il y a de bonnes choses, ça peut être un peu lourd, mais c'est bien. Donc en tout cas, c'est samedi et dimanche, de 9h à 18h. Il faut payer l'entrée quand on est adulte, c'est 4,50€, mais ça vaut le coup.
Tant qu'on est dans le coin, ramenez de la fleur de sel de Salice de Béarn.
Ah oui, très jolie. Et puis on peut visiter les thermes, c'est très très joli. Ça. Donc la foire de Soumoulou. Merci.
Ça vous plaît bien, ça.
Merci Églantine. On va terminer ce samedi avec vous, Sébastien.
Le meilleur pour la fin.
On va dire ça comme ça. Voilà, avec un petit légume qu'on peut dire c'est le roi des légumes de printemps. Il est rond, il est 100% vert. D'ailleurs, vous allez nous en parler aujourd'hui et demain.
Il est bon. Et je vous en ai parlé récemment. On a démarré évidemment la saison du petit pois. Il faut en profiter, les amis, à fond en ce moment. Vous savez, le petit pois, il est vénéré en Italie, dans le nord, du côté de Venise. Tous les ans, on célèbre l'arrivée du printemps avec le retour sur les cartes des restaurants de ce fameux risotto au petit pois qui est devenu, moi, ma recette fétiche. On se met au boulot, je vous préviens, il y a de l'huile de coude au menu ce matin.
Ouais, mais c'est pas si compliqué que ça à faire.
Non, il faut juste rester vissé à sa casserole.
Voilà, exactement, et vous savez comment on fait. Il faut s'attendre au total à passer, Laetitia, une bonne heure en cuisine, on dit. Et puis ensuite, on va couiller le riz. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Il faut simplement être précis au niveau de la liste des courses. Pour 4 personnes, donc. Vous commencez par 250 g de riz à risotto. Alors, si on parle des variétés, prenez plutôt du Carnaroli, qui est plus fin, et à défaut, celui qui est très facile à trouver, c'est l'Arborio. Les petits pois de votre jardin, Thierry, il vous en faut 250 g écossais, c'est-à-dire donc 1 kg en pois brut. On va prendre 4 petits oignons frais avec leurs tiges, une gousse d'ail, si vous trouvez de l'ail nouveau, il y en a en ce moment, n'hésitez pas. 100 grammes de pancetta.
C'est de la poitrine fumée.
C'est la poitrine roulée italienne traditionnelle. 100 grammes en deux petites tranches fines. 1,5 litre de bouillon de volaille, vous l'avez fait vous-même. Le bon verre de vin blanc sec, nécessaire au déglaçage. Du beurre et du persil plat.
Jusque-là, ça m'a porté.
Bon, allez, alors on attaque. Après. Vos petits oignons, Thierry, vous les rincez et vous allez émincer les bulbes. Oui. Les tiges vertes, vous les ciselez finement et vous les réservez de côté. Le bouillon de volaille, vous le chauffez et vous allez y plonger les cosses de petits pois
que vous avez récupérés, bien sûr.
Oh là là, quelle affaire.
Vous avez rincé au préalable, c'est super simple. Oui, c'est la pancetta découpée en petits lardons, la sauteuse, Thierry, à feu moyen, vous faites blondir les oignons, l'ail pressé, la pancetta dans un bon gros copeau de beurre déjà. Votre riz, vous l'ajoutez, vous le touillez soigneusement, vous allez voir, les grains vont devenir un peu transparents. Et le vin, il arrive là. Vous versez votre verre de vin blanc à ce moment-là et vous mélangez jusqu'à ce qu'il soit complètement absorbé. Et c'est là maintenant que vous allez rester devant la gamelle pendant 20 minutes, de façon à rajouter au fur et à mesure le bouillon de volaille pour mouiller ce riz. On mélange, on touille, on mélange, on touille, on mélange, on touille sans arrêt. C'est fastidieux, mais c'est comme ça qu'à l'arrivée, on a un risotto qui est absolument canon.
Et on attrape un touillage elbow.
Absolument.
Exactement. Voilà. Alors, mais vous nous avez parlé tout sauf des petits pois là.
Ils sont là, ils arrivent. Au bout de 10 minutes de cuisson de votre riz, vous les ajoutez dans la gamelle. Donc ils vont cuire donc une bonne dizaine de minutes. Au bout de 17, 18, 19 minutes, ça dépend de votre goût, le riz est cuit, mais encore al dente. Alors voilà, si votre risotto vous semble trop épais, il ne faut pas que ce soit épais, vous le détendez à nouveau avec du bouillon pour que ce soit bien souple et onctueux. Et en toute fin de cuisson, juste avant de servir, vous ajoutez à ce risotto une belle poignée de parmesan, bon gros copeau de beurre encore. Et vous n'oubliez pas, les tiges vertes d'oignon, le persil ciselé, on touille une dernière fois et on passe à table, vite.
Mais ça fait moins d'une heure, ça. Hein.
Ah, bah, j'espère, parce
qu'elle est longue.
Une demi-heure, je veux bien. Une heure, non.
C'est elle qui a raison, Églantine, ça fait moins d'une heure.
En plus, on ne mange en quoi 10 minutes.
Tout ça pour ça, mais quel bonheur.
Ah, quel bonheur. Quel risotto au petit pois. Ouais. Merci, Sébastien. Bah, merci à tous les quatre. On se retrouve demain matin.
Demain, avec grand plaisir.
Nouvelles aventures.
À demain. À tous.